VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du vendredi 12 juin 2015. Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec en votre compagnie à la une ce soir.
Le Burundi, le pouvoir affirme que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées.
Notre envoyé spécial dans la région nous parlera de sa visite dans un camp de réfugiés burundais au Rwanda.
À Tripoli, la capitale libyenne, une milice armée a investi le consulat tunisien et enlevé 10 fonctionnaires.
Dominique Strauss-Kahn, acquitté en France pour proxénétisme.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports éliminatoires de la CAN 2017. La Guinée joue ce soir contre le Swaziland.
Mais d'abord, le journal.
Au Burundi, alors que la contestation a été muselée, le pouvoir affirme aujourd'hui que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées en vue des prochaines élections législatives et présidentielles. Nicolas Pineau.
C'est la présidence burundaise qui relate ce chiffre sur son site internet en relatant une réunion tenue mardi à Gitega entre les gouverneurs de province et Pierre Nkurunziza. À cette occasion, le président burundais a affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Et selon lui, la CENI va continuer à distribuer ses cartes d'électeur afin que ceux qui regagnent le pays puissent se présenter aussi aux élections. Interrogé par VOA Afrique, Prosper Ntaouamié, porte-parole de la CENI, estime que les données pour Bujumbura ne sont pas établies, mais que dans le reste du pays, le taux de retrait des cartes d'électeur avoisinerait les 100%. Un chiffre surprenant puisqu'actuellement le HCR recense environ 100 000 réfugiés burundais, en majorité des femmes et des enfants. La moitié d'entre eux se trouvent en Tanzanie, puis viennent le Rwanda, la RDC et de plus en plus l'Ouganda. Le pouvoir burundais affirme aussi que la sécurité règne actuellement dans le pays. Sur les 119 communes burundaises, seuls 4 quartiers de Bujumbura posent problème. Nyakabiga, Mutakura, Musaga et Ngagara. Le Burundi sera encore au menu des discussions de l'Union africaine réunies en sommet en Afrique du Sud. On ignore pour le moment si Pierre Nkurunziza se rendra en personne auprès des autres chefs d'État et de gouvernement.
À noter également qu'un journaliste rwandais, Étienne Bessa Bessa Mivumbu, a été arrêté et inculpé d'espionnage au Burundi, faute d'accréditation, c'est ce qu'a annoncé le procureur de la province de Muyinga, cité par l'AFP.
Élections en République démocratique du Congo, la communauté internationale veut s'assurer que le processus électoral sera crédible avant de pouvoir y apporter son soutien. Ainsi, le Conseil de sécurité de l'ONU pose des conditions à tout appui logistique et technique de la mission onusienne en RDC. Il est important pour les Nations Unies qu'il y ait, pendant la période préélectorale, électorale et même après élection, un espace politique adéquat, que les droits de l'homme soient protégés et promus, que le processus en soi soit crédible. A fait savoir la MONUSCO à l'issue d'une rencontre avec la commission électorale et des membres du gouvernement.
Trouble à Tripoli, la capitale libyenne contrôlée par les milices de Fajr Libya. Une milice armée a investi le consulat tunisien et a enlevé 10 fonctionnaires d'après l'AFP. Les autorités tunisiennes n'ont ni identifié les assaillants, ni n'a été en mesure de localiser le lieu de détention de ces ressortissants. Selon des correspondants de l'AFP à Tripoli, le secteur a été complètement bouclé et des forces de sécurité empêchaient les journalistes de s'approcher des lieux.
En Afrique du Sud, un jeune ayant bénéficié de la première greffe réussie du pénis sera papa d'ici la fin de l'année, soit moins d'un an après l'opération. Son chirurgien, qui a donné l'information, l'avait opéré à la suite d'une circoncision traditionnelle ratée. Jean-Roger Billon.
C'est une nouvelle prouesse de la science. L'opération du jeune Sud-Africain avait duré 9 heures. Le pénis greffé avait été prélevé sur un donneur décédé après accord de sa famille. Le miracle s'est produit. Il m'a informé que sa partenaire était enceinte d'environ 4 mois, a déclaré André Van Der Merwe, l'urologue qui avait conduit l'opération à l'hôpital Tygerberg au Cap le 11 décembre. Les deux jeunes gens et futurs parents ont la vingtaine. Les accidents durant les cérémonies initiatiques organisées sans témoins et en secret sont assez fréquents en Afrique du Sud, notamment parce que certains individus peu scrupuleux s'improvisent maîtres de circoncision avec la complicité de chefs coutumiers peu regardant. Entre 2008 et 2013, on estime à 486 le nombre de jeunes gens décédés à la suite de ces circoncisions rituelles, le plus souvent à cause d'une infection ou d'une gangrène.
Sachez aussi que Stromae annule le concert qu'il devait donner demain à Kinshasa. Le chanteur belge a dû rentrer en urgence en Europe pour une urgence médicale, d'après la société chargée de la promotion de l'événement dans la capitale congolaise. Le groupe de communication Pygma, cité par l'AFP, assure que les billets achetés à Kinshasa seront remboursés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un tribunal français a acquitté l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui était accusé de proxénétisme aggravé. Un précédent scandale sexuel à New York avait mis fin à sa carrière au Fonds monétaire international. Michel Joseph.
Le tribunal de Lille a prononcé son acquittement ce vendredi. S'il avait été reconnu coupable, Dominique Strauss-Kahn aurait fait face à 10 ans de prison et à une amende de 1,7 million de dollars. Au moins 10 des associés de l'ex-patron du FMI ont également été acquittés. Pendant les audiences qui se sont ouvertes en février, des femmes ont témoigné sur la nature brutale des orgies qu'il a été accusé d'avoir organisées. Strauss-Kahn a admis qu'il a participé à des orgies, mais il a dit qu'il ne savait pas que les femmes en question à Lille, Bruxelles, Paris et Washington étaient des prostituées et il a nié l'organisation de ces rencontres libertines. Strauss-Kahn, une fois considéré comme candidat potentiel pour la présidence française, a été contraint de démissionner du FMI en 2011 après avoir été accusé de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre dans un hôtel de New York. Les procureurs de New York ont finalement abandonné l'affaire contre lui.
Ici aux États-Unis, un juge a estimé que deux policiers impliqués dans la mort d'un garçon noir de 12 ans abattu en novembre dernier à Cleveland alors qu'il manipulait un pistolet factice devraient être traduits en justice. L'avis de ce juge du tribunal municipal de Cleveland est consultatif, comme le rappelle la chaîne de télévision locale ABC News, citée par l'AFP. C'est au procureur qu'il reviendra de décider d'engager ou non des poursuites et de terminer le chef d'accusation Lionel Gahima.
Le décès de Tamir Rice avait remué l'opinion américaine à l'automne dernier en plein débat sur les violences policières à l'encontre de minorités et surtout des Noirs aux États-Unis. Le garçon a été abattu le 22 novembre, quelques secondes après l'arrivée dans un square de deux policiers alertés en un appel leur signifiant qu'un enfant jouait avec un pistolet. La police a affirmé que les deux agents avaient été informés lors du signalement que l'arme, un jouet, était probablement factice. Le juge Ronald Adrin a recommandé que Timothy Lowman, l'officier de police auteur de coups de feu, soit poursuivi pour meurtre, homicide involontaire et manquement à son devoir de policier. Ces deux derniers chefs d'accusation pourraient aussi être retenus contre son collègue Frank Garmbach, qui conduisait la voiture de police, a estimé le juge selon ABC News. Il a été amené à se prononcer à la faveur d'une loi permettant aux habitants de la ville de court-circuiter le procureur pour réclamer directement un mandat d'arrêt auprès d'un juge. Le bureau du shérif du comté de Cuyahoga, chargé de l'enquête, a rendu la semaine dernière des conclusions au procureur. Mais la procédure peut prendre encore plusieurs semaines, voire des mois, pour que ce dernier décide ou non d'engager des poursuites.
Interpol a annoncé aujourd'hui avoir suspendu le partenariat avec les instances gouvernementales de la FIFA, alors que le Paraguay prenait également des mesures suite au scandale de corruption qui frappe le football international. Camille Grosdidier.
Interpol a annoncé la suspension de son accord avec la FIFA suite aux enquêtes pour corruption engagées contre l'organe directeur du football, précise un communiqué de l'organisme de coopération policière qui est basé à Lyon. Dans le cadre d'un accord signé en mai 2011, Interpol avait reçu 20 millions d'euros de la FIFA pour mettre en place un programme intitulé « Intégrité dans le sport » d'une durée de 10 ans, le but étant d'empêcher la manipulation d'événements sportifs par des mafias. La FIFA est au cœur d'un scandale de corruption présumée suite à l'ouverture d'une enquête par le département de la justice américain. À peine réélu pour un cinquième mandat, le président de la FIFA, Sepp Blatter, a démissionné le 2 juin. Entre-temps, le Sénat paraguayen a supprimé l'immunité dont bénéficiait depuis 1997 le siège de la Confédération sud-américaine de football. À Asunción, l'un de ses anciens dirigeants, Nicolas Leoz, a été inculpé par la justice américaine dans le cadre du scandale qui touche la FIFA.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco ce soir avec Félix Yepassis Zembrou.
Les prix du cacao sont restés robustes cette semaine sur fond de crainte de perturbation de l'offre de plus en plus forte, tandis que le sucre et le café sont restés sous la pression d'une offre surabondante. Les cours du cacao échangés à New York à 3 157 $ la tonne. Les tarifs demeurent soutenus par les inquiétudes grandissantes des marchés sur la baisse de l'offre du Ghana, le deuxième plus gros producteur de cacao au monde derrière la Côte d'Ivoire. Le directeur général des supermarchés britanniques, Sainsbury's, qui avait écopé d'une peine de 2 ans de prison en Égypte à la suite d'un litige entre son groupe et un ancien partenaire égyptien, a vu jeudi sa peine annulée selon une source judiciaire. En septembre 2014, Mike Coop avait été condamné à 2 ans de prison par contumace par un tribunal correctionnel après une plainte déposée par un ancien partenaire commercial du groupe britannique. Jeudi, une cour d'appel de la province de Gizeh, au Caire, a annulé ce verdict selon la source judiciaire. Un couvre-feu a été décrété à 12 dans le sud de la Tunisie après des violences sporadiques entre habitants réclamant des emplois et forces de l'ordre, a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur vendredi. 12 est le théâtre de violences sporadiques depuis que des habitants réclamant des emplois et le développement de la région ont été empêchés de manifester devant une compagnie gazière, a indiqué à l'agence France-Presse un responsable local.
Merci Félix et Yepassis Zembrou pour la Minute Éco.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
La course pour la qualification à la CAN 2017 commence ce soir.
Oui, 3 matchs au programme à Casablanca, le Sili National de Guinée qui reçoit le Swaziland. Autre match, Maroc, Libye et Tunisie, Djibouti.
Et d'autres matchs ce week-end?
Notamment le Tchad qui se déplace au Nigeria, le Sénégal qui accueille au stade Léopold Sédar Senghor le Burundi, et puis le Mali qui fera face au Soudan du Sud, la République démocratique du Congo face à Madagascar ou encore le Gabon contre la Côte d'Ivoire. Les écureuils du Bénin se sont envolés pour Bata. C'est après 5 jours de préparation que l'équipe entraînée par Oumar Tchomogo ira affronter celle de la Guinée équatoriale. Les détails d'Élisée Ongpatine.
C'est dans une ambiance morose que les écureuils se préparent pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2017. Une préparation à sa juste valeur quand on sait les problèmes qui minent le football béninois. Stéphane Sessayon, le capitaine de cette sélection, est satisfait du travail abattu depuis le début de la semaine.
On a pu bien travailler, surtout physiquement. Donc là, on est prêt pour le départ, en espérant faire un bon résultat au Malabo.
Quant au sélectionneur Oumar Tchomogo, il doit composer avec plusieurs absents pour ce déplacement en terre équato-guinéenne. Une situation difficile pour l'ancien capitaine des écureuils, qui rassure tout de même.
Moi, je vais repartir avec les jeunes, comme vous l'avez remarqué. Mais il faut vraiment nous laisser le temps et nous donner les moyens.
Le Bénin, dans un groupe C composé en plus de la Guinée équatoriale, du Mali et du Soudan du Sud, doit surmonter cette crise qui secoue son football, cette guerre ouverte entre le ministère des Sports et la Fédération. D'ailleurs, 2 joueurs emblématiques ont préféré ne pas répondre à leur convocation. Élisée Rumpati, Boycon, VOA Afrique.
Une nouvelle défaite pour les Ivoiriennes à la Coupe du Monde féminine au Canada.
La Côte d'Ivoire croisait le fer avec la Thaïlande, 2 équipes qui voulaient remettre les compteurs à 0 après leur lourde défaite en début de compétition. Malheureusement, les Ivoiriennes ont dû concéder la défaite. Score final 3-2 pour les Thaïlandaises.
Finale NBA, Golden State revient dans la course.
Pour la première fois depuis le coup d'envoi de la finale 2015, Golden State a montré son visage conquérant de la saison régulière en dominant Cleveland 103-82. Après 2 défaites consécutives, les Warriors ont bien réagi et ont complètement relancé cette finale NBA où les 2 équipes sont désormais à égalité, 2 victoires partout.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale.
Le Rwanda, un des pays voisins du Burundi, où des dizaines de milliers de Burundais ayant fui la tourmente politique se sont réfugiés. Notre envoyé spécial Bagassi Koura a visité un de leurs camps dans l'est du Rwanda. Idrissa Seydoudia, vous l'avez interrogé sur les conclusions qu'il a tirées de sa visite au camp de Mahama.
Bonsoir Idrissa. Donc, il s'agit notamment du camp de réfugiés de Mahama qui est situé dans l'extrême est du Rwanda, à la frontière tanzanienne. Et là-bas, on parle de plus de 26 000 réfugiés. Vous savez, on est arrivé là-bas mercredi et on nous parlait mercredi de 24 000. Aujourd'hui, on parle de 26 000 avant qu'on quitte le camp ce soir. Et ce nombre, donc, ne fait que grossir jour après jour, rien que ce jeudi. 500 nouveaux arrivants ont débarqué donc dans ce camp dans la soirée. Et les histoires ici sont similaires. Hein. Tous disent avoir fui les violences ou les menaces des Imbore Nakure, la milice du Patu au pouvoir au Burundi.
Alors, étant donné que quand même la situation n'est pas encore réglée, si on peut utiliser un euphémisme, au Burundi, on s'attend donc, sur la base des 2000 supplémentaires qui sont arrivés dans ce camp, que ça va continuer.
Oui, ça va continuer parce que, comme j'ai dit, les vagues continuent d'arriver, les vagues de réfugiés. Et ce site, comme nous disait un humanitaire, ce site avait été conçu au début pour être un lieu temporaire. Mais ces derniers jours, tout est en train d'être remis en cause. Et les humanitaires, avec les autorités rwandaises, s'attellent désormais à transformer ce camp en un camp permanent. Du coup, on voit de nouveaux types de constructions. Les autorités rwandaises ont aussi accepté d'agrandir le site qui passe désormais de 50 hectares à 100 hectares. C'est vous dire que on s'attend à plus de réfugiés venant du Burundi tant que cette question politique là-bas n'est pas réglée.
C'était notre envoyé spécial au Rwanda, Bagassi Koura. Dans notre prochaine édition, nous verrons avec lui, nous ferons le point sur le débat actuel concernant un éventuel troisième mandat pour le président rwandais Paul Kagame.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Et nous partons maintenant au Mali, où l'Assemblée nationale a adopté la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta. Un texte voté par 116 voix pour et 21 contre. Ce document était attendu, puisqu'il dresse les articulations des missions du gouvernement entrées en fonction en janvier. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Les débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement ont été dominés par la situation sécuritaire, celle de Menaka, Bourema Beridogo, député de l'opposition.
Missine dans le cercle de Kadiolo a été attaqué par les djihadistes, des gens ayant signé en Sardine, au sud du Mali. Les deux drapeaux dans Sardine ont été hissés dans le village et les renforts ne sont arrivés de Sekasso 10 heures après sur le Premier ministre. Le bon sens ne veut-il pas qu'on renonce aux dépenses de prestige pour équiper l'armée malienne d'hélicoptères de combat capables de faire face dans un temps raisonnable des situations de guerre. Les forces de l'ordre et de sécurité à Misini ont été à court de munitions lors de la...
Selon la députée de Tombouctou, les récentes attaques dans sa localité ont occasionné le déplacement de 3000 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Adisa Benkatra, députée de Tombouctou.
Monsieur le Premier ministre, saviez-vous que depuis septembre 2014, ces localités investies manquaient déjà de tout soutien alimentaire ainsi que les localités d'accueil de nombreux déplacés? Quelles sont les mesures d'urgence envisagées pour soutenir ces populations en détresse et ces chefs de famille dépouillés de tout par les bandits armés? Si rien n'est fait pour les exploitants des plaines de Daï, Amadja, Koroyeme, la situation alimentaire risque d'être dramatique pour les populations.
Répondant à ces préoccupations, le Premier ministre pense qu'il y aura une campagne de distribution des vivres dans les localités qui sont en difficulté. Pour certaines questions relevant des secrets de défense, il a proposé un autre format afin que les ministres concernés puissent venir s'expliquer devant les députés. Après les débat, 116 députés ont donné leur cutis alors que les 21 députés de l'opposition ont refusé le document. Mamadou Diarasouba, député de la majorité.
La DPG reflète la vision présidentielle. Donc la vision présidentielle, c'était en trois axes. Garantir la sécurité des personnes et des biens, améliorer les conditions de vie de la population et promouvoir pouvoir et la justice. C'était vraiment dans son projet présidentiel le Mali d'abord. Donc vraiment, la DPG reflète parfaitement vraiment la vision du président de la République et le projet de société de mon parti.
Modibo Keïta, premier ministre du Mali, après l'adoption de la déclaration de politique générale du gouvernement.
J'ai noté que ceux qui ont apporté leur confiance à la déclaration de politique générale n'ont jamais renoncé à leur droit du contrôle de l'action gouvernementale. Que ceux qui ont voté pour ont accompli un devoir républicain. Ceux qui ont voté non ont accompli aussi un devoir républicain. Alors l'essentiel pour nous, c'est de regarder vers l'avenir. Cette réalité est supportée par l'image superbe que nous renvoie le peuple du Mali, qui attend de nous que nous apportions des réponses appropriées à ses préoccupations.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Pour mettre à jour les nouvelles sur l'épidémie de méningite au Niger, selon Médecins sans frontières, le nombre total de patients a diminué de 98%. À Niamey, où l'épidémie a été très aiguë, il n'y a plus que 4 admissions par jour contre 279 début mai. Claire Morin-Gibourg a joint le coordonnateur médical de l'ONG Médecins sans frontières au Niger pour comprendre les raisons de ce succès. Le docteur Idrissa Compaoré.
C'est vraiment multifactoriel. 3 groupes de raisons. La première raison par rapport à la baisse des matchs, je citerai la pluie. Il a commencé à pleuvoir, surtout au niveau des dossiers, là où nous intervenons. Après la pluie, on a constaté la baisse très importante des cas, la semaine qui a suivi la pluie. Le deuxième élément, je dirais, c'est un peu la vaccination. Parce que la vaccination a quand même ciblé la tranche de la population la plus touchée, c'est-à-dire les 2-14 ans. Mais on l'a fait, on le reconnaît, parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins non plus, sinon on pouvait aller jusqu'à 30 ans. Donc il y a une part contributive quand même de la vaccination à cette baisse. Et le troisième point, je dirais, c'est la sensibilisation. Parce que il y a eu pas mal de messages qui sont passés dans les districts les plus touchés. Donc cette sensibilisation était basée sur la prise en charge gratuite des cas pour que les gens puissent venir rapidement. Et nous, on l'a constaté à Douchi où les délais de consultation étaient autour de 48 heures. Il y a également le message passé par cette sensibilisation qui était le regroupement. C'est-à-dire qu'on disait aux gens d'éviter de se regrouper pour essayer de couper la transmission entre les porteurs et les autres individus, casser un peu la chaîne de transmission. Ensuite, il y a la fermeture quand même des écoles qui va dans le même sens que le regroupement. Ça permet quand même de diminuer la transmission.
Médecins sans frontières souligne que c'est la première fois que le Niger était confronté à une épidémie de méningite de souche C. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet de cette nouvelle souche?
On est inquiet parce que c'est une souche qu'on n'a pas les connaissances scientifiques sur l'évolution épidémique, mais le nombre de cas ayant présenté ces complications nous a quand même interpellés. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'études sur cette épidémie pour essayer encore d'éclairer davantage la connaissance scientifique d'une épidémie méningite à méningo-C.
C'était Idrissa Compaoré, coordonnateur médical de l'ONG Médecins sans frontières au Niger. Il était joint à Niamey.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
46 condamnations à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo, suite à des audiences menées sous l'impulsion et avec le soutien logistique du bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, Madame Janine Mabunda Lyoko. Ces condamnations ont été rendues possibles par le système de tribunaux mobiles mis en place par l'État congolais, les magistrats se déplaçant à travers le pays pour juger des affaires dans des régions où elle n'a pas suffisamment été présente. Un bilan du travail accompli à Bounia avec Madame Mabunda.
On a participé, disons, à des tribunaux pour 65 cas enregistrés de viol à Bounia, en Ituri, dans une province donc, qui est pas loin de la frontière ougandaise. Et donc, sur les 65 cas de viol, il y a eu 46 condamnés et 13 acquittés.
Êtes-vous satisfaite de cette décision?
Mais je crois que tout ce qui concourt à rassurer les populations qu'ils sont désormais en sécurité et que lorsqu'ils ont un cas de viol qui les frappe, ils peuvent se confier à la justice avec la certitude de voir une suite et un traitement de leur dossier sous forme de décision. Oui, je pense que toutes ces activités, tous ces actes qui permettent de crédibiliser la justice dans la lutte contre l'impunité, ça nous rend tous satisfaits comme citoyens congolais. Alors que les gens ont besoin, avec les cours mobiles, de voir la justice à leur porte, la justice à leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils disent, nous voulons voir la personne punie là où elle a commis le crime. Parce que, un, ça a un effet pédagogique pour que tout le monde apprenne que le viol, il y a une loi qui l'interdit à un dossier. Deux, ça a un effet de réconciliation parce que la communauté était traumatisée et perturbée et elle a besoin de savoir qu'il y a un processus étatique par le canal de la justice qui permet de remettre de l'ordre dans une communauté qui était perturbée par les actes d'un violeur.
Quelle va être la prochaine étape pour ces tribunaux mobiles?
Les tribunaux mobiles existent depuis quelques années en République démocratique du Congo. Et en fait, ce sont des tribunaux qui se déplacent, qui vont, disons, à la rencontre des justiciables et qui rassemblent plusieurs dossiers qui ont un même objet pour lequel la société considère que ce sont des actes qui ne peuvent pas rester impunis et qui ne peuvent pas couler dans la lourde administration de la justice. Donc, il y a eu des tribunaux mobiles à Bounia, mais si on se souvient, l'année passée, la République démocratique du Congo a organisé des tribunaux mobiles au Nord Kivu, qui est une autre province. On a eu des tribunaux mobiles à Rutshuru, à Masisi, à Bukavu, pour ne donner quelques exemples, à l'ouest du Congo, au Bas-Congo, à Kasangulu. Donc c'est une pratique qui est courante et qui répond à l'immensité du pays, parce que quand on a un pays aussi grand que le Congo, où Kinshasa et, comme j'ai dit, Goma sont aussi distants que Londres et Moscou, avec l'héritage que nous avons eu de perturbations, les infrastructures et l'état dans lequel elles sont ne permettent pas toujours, compte tenu du nombre de magistrats, d'avoir des tribunaux dans tous les territoires. Alors la façon de répondre à ça, c'est de rassembler des dossiers dans une même zone géographique, dans un point de centralisation, et de les traiter en même temps, surtout quand il s'agit d'un même sujet qui était ici, le cas des violences sexuelles.
Madame Jeannine Mabunda-Lioko, jointe en RDC par Camille Gros-Didier.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Notre sujet de cette semaine, que pensez-vous du travail des enfants dans les pays pauvres? Comment résoudre ce problème? Nos invités d'honneur en direct du Studio 13 pour répondre à cette question, le talentueux balafoniste chanteur malien Mamadou Dembélé dit Dabara et le célèbre Molobali Keita, deux grands artistes maliens en visite à Voice of America. Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225-5892-8540. Encore une fois, c'est le plus 225-5892-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. C'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est ce soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagno, assisté de Tian Wan à la console. Présentation Idrissa Seydoudia et Morgan Guiriec.
Et Morgane, comme vous et Gabi avaient l'habitude de le dire, ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.